Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 19h30 en temps universel. Bonne année à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette édition du 1er janvier 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Guinée-Bissau, l'opposant Oumaro Sissoko Embalo a été élu président. Une victoire contestée par son adversaire Domingo Simoes Pereira. Trois civils ont été tués dans un bombardement aérien au sud de Tripoli, a indiqué le gouvernement d'Union nationale. Les manifestants se sont retirés des abords de l'ambassade américaine à Bagdad au lendemain d'une attaque contre la chancellerie. Et à Hong Kong, des centaines d'arrestations dans une grande manifestation pro-démocratie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée-Bissau, l'opposant Oumaro Sissoko Embalo a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Une victoire contestée par son adversaire Domingo Simoes Pereira, estimant qu'il y a eu fraude électorale. Les précisions avec Jacques Aristide.
Domingo Simoes Pereira, chef du plus grand parti du pays, le PAGC, lui-même arrivé en tête lors du premier tour, parle d'irrégularité et de manipulation. Il dit rejeter les résultats du second tels que proclamés par la commission électorale.
Domingo Simoes Pereira, 254 468 voix, soit 46,45%. Oumaro Sissoko Embalo, 293 359, soit 53,55%.
L'enjeu du scrutin était de mettre fin à un blocage politique en Guinée-Bissau, pays d'1,8 million d'habitants, englué dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAGC et José Mario Vage, le président sortant arrivé seulement à la 4e place au premier tour et qui en larmes a appelé au retour de la stabilité. Le président élu, également général de brigade de réserve, demande à tous les Bissau-Guinéens, dont beaucoup vivent à l'étranger, de contribuer au développement de ce pays qu'il dit martyrisé. Oumaro Sissoko Embalo.
Redresser la Guinée-Bissau, d'abord, c'est pour donner la confiance, l'assurance à mon peuple bissau-guinéen. Et une présidente d'inclusion, pas d'exclusion.
À 47 ans, Oumaro Sissoko Embalo s'est posé en rassembleur. Il va devoir composer avec un parlement dominé par le PAGC.
En Libye, un bombardement aérien a fait 3 morts et 3 blessés près de Tripoli. La Turquie a fait savoir qu'elle pourrait surseoir à son projet d'envoyer des troupes si la situation se stabilise dans ce pays. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le raid aérien de ce mercredi visait la région d'Al-Sawani, à 25 km au sud de la capitale libyenne, zone sous contrôle du gouvernement d'Union nationale, GNA, a fait savoir un porte-parole de ce gouvernement reconnu par la communauté internationale. Les forces du GNA accusent les troupes du maréchal Khalifa Haftar d'avoir mené cette attaque, affirmant avoir fait prisonnier 25 combattants pro-Haftar. Haftar, qui contrôle l'Est libyen, a amorcé depuis le 4 avril une offensive pour s'emparer de Tripoli, siège du GNA, et depuis quelque temps, la banlieue sud de Tripoli continue d'être le théâtre de violents combats. Fayez Al-Serraj, le chef du GNA, a demandé l'aide militaire de la Turquie. Le Parlement turc doit débattre jeudi d'un projet de loi portant déploiement de soldats turcs en Libye. Ankara pourrait toutefois surseoir à ce projet si le maréchal Haftar cesse son offensive contre Tripoli et retire ses troupes, a fait savoir le vice-président turc Fuat Oktay ce jour de l'an.
Joseph Djimrangar Dadnadji, qui avait été premier ministre du Tchad en 2013 avant de passer à l'opposition, est mort mardi à 65 ans d'un accident vasculaire cérébral, a annoncé son parti le Cap Sûr. Le président tchadien Idriss Déby a présenté ses condoléances à la famille biologique et politique de l'ancien premier ministre. Isabel Dos Santos nie les détournements de fonds que lui reproche la justice angolaise, dénonçant des accusations motivées politiquement. Selon elle, le parquet général a annoncé lundi qu'un tribunal de Luanda chargé d'une enquête pour corruption avait ordonné le gel de ses comptes bancaires et actifs dans plusieurs entreprises.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les manifestants pro-Iran qui observaient un sit-in aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad ont quitté les lieux au lendemain d'une attaque contre la chancellerie. Si la violence a cessé à Bagdad, la situation reste tendue entre l'Iran et les États-Unis à la suite de cet incident. Plus de précisions avec Salwa Jafari.
Les manifestants se sont retirés de ce qui ressemblait aujourd'hui à un champ de bataille. Sur ordre des paramilitaires d'Al-Hashd Shaabi, ils ont petit à petit démonté leur campement des abords de l'ambassade, tout en scandant « on les a brûlés ». Accalmie sur le terrain, côté diplomatique, Téhéran et Washington sont toujours à couteau tiré. L'Iran a convoqué le chargé d'affaires suisse pour protester contre ce qu'il appelle le bellicisme des États-Unis après des frappes aériennes américaines sur une faction pro-Iran en Irak dimanche, puisque la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays. Ayatollah Ali Khamenei.
Premièrement, vous vous trompez. Cela n'a rien à voir avec l'Iran. Deuxièmement, si vous étiez logique, ce que vous n'êtes pas, les Américains doivent avoir du bon sens et ils devraient savoir qu'ils ne l'ont pas. Vous verriez que les gens des pays de cette région vous détestent. Pourquoi ne le savent-ils pas? Vous, Américains, vous avez commis des crimes en Irak, vous avez commis des crimes en Afghanistan, vous avez tué des gens.
De son côté, le président Donald Trump a menacé de faire payer le prix fort à l'Iran, accusé d'avoir orchestré l'attaque de l'ambassade. À aucun moment, les forces irakiennes gardant les entrées de la zone verte ne se sont interposées.
Par ailleurs, suite à l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a reporté un voyage en Ukraine. L'ensemble de sa tournée, qui devait également le conduire au Bélarus, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et à Chypre, a été reporté. Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé ce mercredi à Hong Kong pour le nouvel an. Des affrontements ont à nouveau opposé la police au plus dur des contestataires. John Linden nous en dit plus.
La manifestation de ce mercredi a débuté pacifiquement dans l'après-midi, puis des affrontements ont éclaté autour du cortège alors qu'il sinuait dans le quartier de Wangshai. Visé par des cocktails Molotov, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et de gaz au poivre. Le Front civil des droits de l'homme, qui avait obtenu l'autorisation d'organiser cette manifestation, s'est vu intimer l'ordre d'y mettre fin sitôt qu'ont démarré les affrontements. Dans des scènes devenues familières, les policiers anti-émeutes se sont déployés aux alentours de la marche, y compris à la station de métro de Wangshai. Des manifestants, masqués et vêtus de noir, se sont rassemblés pour construire des barricades de fortune. Certains ont vandalisé des commerces. La manifestation visait à mettre la pression sur l'exécutif local afin qu'il accède aux demandes des protestataires, notamment un véritable suffrage universel, une enquête indépendante sur le comportement de la police, de même que l'amnistie pour les quelques 6500 personnes arrêtées depuis juin, dont près d'un tiers âgés de moins de 20 ans. L'ex-colonie britannique connaît depuis près de 6 mois sa plus grave crise depuis sa rétrocession à Pékin en 1997.
Des milliers de Palestiniens ont commémoré le 55e anniversaire de la fondation du Fatah par Yasser Arafat dans la bande de Gaza contrôlée par les islamistes du Hamas. L'an dernier, le Fatah avait annulé les commémorations invoquant une campagne d'arrestation menée par le Hamas contre ses cadres et membres actifs. Les secours ont commencé à venir en aide ce mercredi aux milliers de personnes réfugiées dans des villes du littoral australien. Après avoir fui les incendies, des navires et des avions militaires ont été déployés pour apporter de l'aide humanitaire et évaluer les dégâts. La police a annoncé la découverte de 3 nouveaux corps aujourd'hui, portant à 8 le nombre de personnes tuées depuis lundi soir. Lors de sa première messe de l'année 2020, le pape François a dénoncé les violences contre les femmes et l'exploitation de leur corps à travers le consumérisme et la pornographie. Les femmes sont source de vie, cependant elles sont continuellement offensées, battues, violentées, a estimé le chef de l'Église catholique dans son homélie prononcée dans la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife a estimé que toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu. C'est par la façon dont nous traitons le corps de la femme que nous comprenons notre niveau d'humanité, a-t-il déclaré. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. En République du Congo, la société canadienne Zenith Energy a démarré des pourparlers avec le producteur AAOG pour acquérir ses parts sur le champ pétrolifère de Tilapia pour 1 million de livres sterling. L'agence Ecofin rapporte que Zenith prévoit de démarrer les activités de forage dès qu'elle prendra le contrôle opérationnel de la licence. Elle assurera aussi le montant de toute prime de signature requise pour le renouvellement de la licence, sous réserve d'un plafond de 2 millions de dollars. Le gouvernement congolais contrôle 44% du champ Tilapia. Si les négociations réussissent, elles marqueront la première acquisition africaine de Zenith Energy. L'Égypte planifie de planter 1,26 million d'hectares de blé dans les 2 à 3 prochains jours et vise toujours à planter un total d'environ 2 millions d'hectares cette saison. Le plus grand importateur mondial de blé veut augmenter la superficie utilisée pour les semences qu'il considère stratégiques et améliorer la sécurité alimentaire. Pour terminer, Delta Corporation du Zimbabwe, le plus grand fabricant de boissons du pays, signale une baisse semestrielle de 48% des ventes de bières blondes par rapport à la même période l'an dernier, après que la production et la distribution ont été frappées par des pénuries d'électricité et de carburant. Delta accuse aussi les pénuries de devises étrangères de l'empêcher à importer des matières premières au cours du semestre qui s'est terminé en septembre.
À présent, je me tourne à ma gauche vers Eric pour la présentation des sports. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Alors, on commence par la première ligue anglaise, c'est ça, hein, Chelsea rate le coach à Brighton.
En ouverture de la 21e journée de championnat d'Angleterre, Chelsea a laissé échapper 2 points sur la pelouse de Brighton, 1-0 et manqué l'occasion de consolider sa 4e place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Ce nul offre la possibilité à son poursuivant immédiat Manchester United de revenir à 2 points en cas de succès en soirée sur la pelouse d'Arsenal à 21h TU, qui reste sur 4 défaites d'affilée à l'Emirates Stadium. Tottenham et Wolverhampton, qui se déplacent respectivement à Southampton et Watford, peuvent réduire l'écart à 3 points. Dans l'autre match de début d'après-midi, Aston Villa est sorti provisoirement de la zone rouge en allant gagner 2-1 à Burnley. Le leader Liverpool ne joue que jeudi à Anfield face à Sheffield. C'est poursuivant, Leicester 2e et Manchester 3e jouent eux ce mercredi, c'est respectivement à Newcastle 16h TU et face à Everton 18h TU.
Chelsea annonce une perte de près de 120 millions d'euros.
Perte enregistrée pour l'exercice comptable clos au 30 juin, selon des résultats financiers publiés mardi par le club de football londonien. Le chiffre d'affaires a augmenté légèrement à 523 millions d'euros, mais l'absence de participation en 2018-2019 à la Ligue des Champions, des dépenses records pour acquérir certains joueurs, ou encore les changements répétés d'entraîneurs ont creusé le déficit du club.
À 35 ans, Andrés Iniesta gagne encore un titre au Japon.
L'âge n'a pas de prise sur le joueur espagnol Nathalie, qui a ajouté une ligne à son palmarès déjà bien garni en remportant la Coupe de l'Empereur mercredi avec son club japonais du Vissel Kobe. La rencontre était la première compétition officielle organisée au tout nouveau stade olympique de Tokyo qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO cet été ainsi que les épreuves d'athlétisme et quelques matchs de football. L'équipe Vissel Kobe qui compte d'autres vieilles stars européennes comme l'Espagnol David Villa ou l'Allemand Lukas Podolski s'est imposée 2-0 en finale contre les Kashima Antlers pour s'offrir le premier trophée de son histoire.
Rapidement, la NBA pour la nouvelle année, les Rockets et les Clippers se régalent tandis que les Mavericks et les Sixers calent.
Les Rockets de James Harden, 35 points, Clippers de Kawhi Leonard, 24 points, finissent l'année sur une bonne note avec des larges victoires sur leurs adversaires du soir alors que les Mavericks privés au dernier moment de Polzinski, de leur genou, et les Sixers sans Joel Embiid ont manqué le rendez-vous avec 2020.
Merci beaucoup Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition, maintenant les dossiers du jour. Dans son discours de vœux de Nouvel An, Paul Biya a longuement évoqué la crise en région anglophone. Pour le président camerounais, cette crise qui a pris des proportions inquiétantes en 2019 est sans aucun doute l'un des problèmes les plus urgents. Retour sur ce discours avec Bagassi Koura.
C'est sans aucun doute pour le moment l'un des problèmes.
Pendant plus d'un quart d'heure, le chef de l'État camerounais s'est longuement étendu sur la situation socio-économique et sécuritaire de son pays. S'agissant de la crise anglophone, Paul Biya n'a pas mâché ses mots.
L'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions. Pourtant, ces derniers mois, diverses mesures ont été prises pour amener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, se sont laissés endoctriner.
Paul Biya tend la main au mouvement sécessionniste anglophone afin qu'ils déposent les armes, leur rappelant que des perspectives de réinsertion sociale leur étaient offertes. Le président camerounais met aussi en garde ceux qui vont continuer dans la voie de l'insurrection armée.
Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse.
Biya a insisté sur la volonté de son gouvernement, je cite, d'accorder aux collectivités territoriales des compétences qui leur permettraient d'avoir une large part dans la gestion des affaires locales. Fin de citation. Le président camerounais est aussi revenu sur la question du bilinguisme.
Il avait été également confirmé que des dispositions étaient prévues pour accélérer la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.
Pour la première fois, Paul Biya a dénoncé ce qu'on appelle les anti-sardinales, des membres de la diaspora qui ont souvent organisé des manifestations violentes dans les ambassades du pays en Europe et en Amérique.
S'agissant du comportement excessif de certains de nos compatriotes de la diaspora, qu'il soit ou qu'il ne soit plus camerounais, je pense qu'il devrait, par patriotisme, s'abstenir de propos négatifs à l'égard de leur pays d'origine. On doit toujours respecter sa patrie, ses institutions et ceux qui les incarnent.
Le discours de Paul Biya a été diversement apprécié par ses compatriotes.
Mes chers compatriotes,
beaucoup espéraient que le président de 86 ans allait annoncer de nouvelles mesures en faveur de la paix.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Pour cette nouvelle année 2020 au Sénégal, le président Macky Sall s'est adressé lui aussi à la nation, un moment dont il a profité pour évoquer la situation du pays. En rétrospective 2019, pour les Sénégalais, les points retenus sont l'emploi des jeunes, la nouvelle monnaie éco et la projection vers les défis à venir, selon notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les Africains doivent préparer l'avenir et assumer leurs responsabilités à travers une intégration économique régionale plus forte et plus solidaire. C'est ainsi que le président Macky Sall a expliqué le processus de création d'une monnaie unique ouest-africaine, l'éco, à partir de 2020. C'est une heureuse perspective d'après le chef de l'État, mais incomprise pour certains Sénégalais comme Pape.
Je pense qu'une question aussi importante que la devise monétaire, ce qui devait se faire en amont n'a pas été fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il fallait au moins des discussions en interne, au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, ou bien, je ne sais pas moi, au sein du gouvernement. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Mais en tout cas, de cause, la question n'a pas été rebalayée au niveau des populations. Les populations ne savent pas ce qui se passe avec ce problème d'écola ou bien de France CFA. Lui, il vient pour défendre ce que sa population n'a pas du tout compris. Moi, je ne comprends pas cette démarche.
Le chef de l'État, Macky Sall, a aussi annoncé le programme Sénégal propre, le durcissement des peines concernant concernant le viol et la pédophilie, mais également la mise en place de centres départementaux de formation professionnelle pour lutter contre le chômage. Et pour les jeunes comme Sohna Dem, le président de la République doit passer à la concrétisation de toutes ces annonces.
Maintenant, il faut poser des actes pour que l'on puisse croire à ce que disent nos chers politiciens. Moi, je note juste quelques points qui m'ont beaucoup marqué, c'est-à-dire il a parlé de la création de 13 centres de formation professionnelle. Il a parlé également de l'adoption d'une loi qui criminalise les viols contre les femmes et les jeunes filles. Et il a également parlé du Sénégal zéro déchet, le désencombrement et la création de la brigade de désencombrement. Je crois que ça, c'est de bonnes initiatives. C'est un pas en avant vers le futur quand même.
Le futur, c'est justement l'un des points phares de l'adresse à la nation du président Macky Sall. Le chef de l'État a partagé sa vision d'un développement solidaire et inclusif pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, à l'électricité, aux services de transport, à la santé et à l'éducation. Des objectifs fixés à l'horizon 2025, trop loin pour Boniface Sadio.
On ne doit pas se focaliser sur un futur qui est incertain. On doit se focaliser d'abord sur le présent. Qu'est-ce que les Sénégalais sont en train de vivre? Est-ce que tu as en premier lieu réglé les choses les plus minimes des Sénégalais en fait? Je pense que quand on parle de futur, on doit d'abord régler ce qui est présent. Par rapport à ce que les Sénégalais vivent, le système est en faille par rapport à cela. Parce que des fois, on met sur place des solutions par rapport à l'environnement, par rapport à l'assainissement, mais on remarque toujours qu'il n'y a pas de suivi. Mais si on se focalise sur ce que le président vient de dire, on peut avoir confiance qu'il pourra y avoir un suivi.
Au-delà de ces questions, le chef de l'État Macky Sall a affirmé que la violence qui secoue actuellement le monde doit constamment rappeler au peuple sénégalais la chance de vivre en paix et la responsabilité de la préserver. Pour le président Sall, cette paix est un legs laissé par les générations passées qu'il faut entretenir et transmettre aux générations futures. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, nous revenons sur les faits saillants de l'actualité aux États-Unis au cours de l'année 2019. Une année marquée, entre autres, par la mise en accusation du président Donald Trump à la Chambre. De leur côté, plusieurs candidats se bousculent pour être le porte-étendard du Parti démocrate en vue d'affronter Donald Trump en novembre. Ce dernier continue de profiter des bons chiffres de l'économie, sans oublier le débat sur le port des armes à feu suite aux multiples fusillades qui ont endeuillé plusieurs communautés. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-nous ce jeudi à 19h, temps universel.
Mardi, à la veille du nouvel an, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est également adressé à la population. Cependant, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a lui aussi fait une adresse à la nation sur les réseaux sociaux, de même que l'ancien président Henri Conan Bédié. Qu'en pensent les Ivoiriens? La réponse dans ce micro-trottoir d'Aïcha Diarra.
Le chef d'État, le discours qu'il a fait, en tout cas, ça a été très bien. Parce qu'il a montré devant tout le monde que c'est la paix lui veut. Bon, ceux qui veulent essayer d'envoyer les troupes dans le pays, vraiment, on n'est pas avec eux. Parce que ce qu'on a dépassé, nous tous on connaît à Boakéis. Parce que nous, on cherche à aller devant. Mais avec cette situation-là, moi, je vois que si le président doit faire un discours, maintenant, toi aussi, tu veux faire pour toi. Tu fais comme tu... C'est comme si tu te compares à le président. C'est pas joli à voir. En tout cas, moi, ça m'a pas plu.
Ouais, j'ai écouté les trois discours à la nation. Chacun a parlé de, quand même, la paix. Vraiment, on en a besoin en Côte d'Ivoire, la paix. Parce que chacun a peur. Personne n'est très sûr de choses. Mais comme les trois ont parlé de paix, je crois que ça rassure quand même, ça nous rassure nous autres, hein.
Sincèrement dit, c'est un seul président qui doit faire le discours pour la nation. Si Bédié a fait pour lui, Soro Diom a fait pour lui. Bon. En tout cas, c'est pas ce qu'il veut, quoi. Ce qu'il veut pour le pays. Si vraiment qu'il veut que le pays avance, il doit s'unir. On doit savoir qu'il y a un seul président. Tout le monde doit le suivre. Bédié, lui, c'est un aîné. Il sait comment, il y a longtemps, il est là. S'il veut vraiment le bonheur de ce pays, sincèrement dit, il doit s'entendre avec ses frères.
Aujourd'hui, c'est eux les leaders du pays. Si les trois peuvent s'entendre, parce que quand il y a des divergences entre eux, ça n'arrange pas d'abord la nation, ça va envoyer d'autres conflits qui seront pas avantageux pour la jeunesse. Or, apparemment, eux tous aujourd'hui parlent de la jeunesse. Mais si vous-même vous devez être à la base de la destruction de cette jeunesse-là. Je crois que ce que vous dites là, vous prêchez dans le fou.
Ah bon, c'est des choses là, tu ne comprends pas quoi. L'autre tient son discours, l'autre tient son discours, l'autre tient son discours.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au pays, au fait.
En tout cas, moi, personnellement, il n'y a pas que la jeunesse tombe dans un jeu politique, c'est tout, car ils ont déjà tout eu. C'est à nous de se battre pour notre pays.
Nous, la population, on est innocent parce que nous, on veut la paix. Actuellement, on est là. Quel que soit le président qui va venir, c'est la paix, nous, on veut. Donc, par rapport à leur discours, on veut que les politiciens s'entendent pour que nous, on soit à l'aise.
En tant que chef de famille, trois discours pour un seul pays, c'est pas bon. Il doit les appeler. Ce sont ses enfants. C'est lui qui les dirige. Si l'autre est plus vieux, l'autre est petit. C'est comme ça qu'on fait faire. Si ce sont vraiment les enfants du feu, c'est le dialogue. Mais si ce sont pas les enfants du feu, chacun va faire un bras de fer et puis ça va marcher. Oh, les trois revendiquent le feu 10. Mais il n'y a pas de dialogue. On comprend pas. Voilà. C'est ce que moi, je vois. Il faut le dialogue.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Tchad, de l'année 2019 a été marquée par plusieurs faits sociopolitiques. Les hommes et femmes politiques, les acteurs de la société civile et les journalistes reviennent sur certains événements particuliers. Voici des réactions dans le reportage d'André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Pour la plupart des citoyens tchadiens, l'année 2019 a été éprouvante pour certaines familles. Accablées par la réduction drastique des salaires, primes et indemnités à cause de la crise économique et financière, les agents de l'État n'arrivent pas à subvenir aux besoins vitaux de leur famille. L'Algien Narcisse Mbainadi, journaliste et analyste politique, déplore également l'instabilité politique.
On a assisté aussi à ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale. Chaque deux mois, chaque trois mois, on remanie le gouvernement. Et cela n'est pas de nature à favoriser la bonne action. Finalement, le poste ministériel est devenu une banalité au Tchad.
Pour l'activiste Rassou Gagé, 2019 a été une année difficile pour le peuple tchadien.
On a manque d'électricité en saison pluvieuse. Nos frères sont inondés. Les maisons s'écroulent sur eux comme des oiseaux. Il faut que le Tchadien arrive à envoyer son enfant à l'école. Le Tchadien n'a qu'à pu aller se faire soigner. Le Tchadien n'a qu'à pu vraiment avoir la vie comme les autres citoyens sur cette planète.
Il y a certainement une embellie financière qui augure pour la nouvelle année. C'est ce que promet l'ancien ministre et cadre du parti au pouvoir, Gamara Silek.
Il y a la relance de l'économie qui est annoncée, c'est déjà une bonne nouvelle. La loi des finances vient d'être votée et c'est l'information qui en ressort. La deuxième chose, c'est que nous allons vers plus de tranquillité dans la gestion au quotidien de notre pays et donc nous pouvons aborder avec beaucoup de sérénité les échéances qui ont été reportées, les élections législatives notamment.
Pour les défenseurs des droits de l'homme, la particularité de l'année 2019, ce sont les affrontements intercommunautaires qui ont entraîné plusieurs centaines de morts dans la partie nord du Tchad, au centre et dans l'extrême Sud. Maître Midaï Guiribaï est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Ces communautés s'affrontent parce qu'ils croient que l'État est faible et dès l'instant où l'État ne fait pas valoir ses pouvoirs régaliens, des individus s'affranchissent de l'autorité de l'État et on a enregistré beaucoup de morts gratuites dans le Wadaï et autres. Vous savez qu'il y a un état d'urgence qui permet donc aux forces de l'ordre d'abuser. On a eu beaucoup de cas qui montrent bien qu'il y a une situation de non-droit dans ces zones-là.
Affrontement intercommunautaire, l'ancien ministre et cadre du parti au pouvoir Gamara Asilek trouve la situation inquiétante et engage la responsabilité du gouvernement.
Le conflit intercommunautaire est axé essentiellement sur la question du terroir. Et la question du terroir ne peut pas se régler par la loi d'urgence. Et il faudrait que l'État puisse s'imposer. Et nous sommes devant une situation où les communautés pensent que la terre leur appartient. Et entre ces deux, il y a un problème. Donc il va falloir que l'État puisse réguler comment cela doit se passer. Si on ne le fait pas, on n'est pas sorti de l'auberge.
Autre particularité, selon Maître Midaï Guirimbaï, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, c'est aussi les atteintes aux droits fondamentaux des citoyens.
Exceptionnellement, en 2019, nous avons assisté aux arrestations des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, de plusieurs journalistes, à la fermeture des journaux. Le plus grave que nous avons constaté en 2019, c'est qu'on est passé de comportements belliqueux à une remise en cause de la personne humaine. Les citoyens tchadiens ont commencé par avoir des comportements très criminels.
Bonne et heureuse année 2020 à tous et à chacun. André Kodumajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à Justin Touette et Cheikh Thierrot à la production. C'était Nathalie Barge à la présentation. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne année 2020.